Alors, j'essaierai de parler, ou mieux, de lire en français. Donc, d'abord, je demande pardon pour ma prononciation. Mais je crois que c'est mieux une mauvaise prononciation française qu'une bonne prononciation italienne. Donc, je commence. En 1979, dans son rapport final du colloque sur l'averroïsme en Italie, organisé par l'Accademia Italiana dei Lincei, Marino Gentile formulait un doute. Les résultats des enquêtes historiques particulières ne détruisaient pas leur propre objet, c'est-à-dire l'averroïsme comme phénomène unitaire à interpréter dans un cadre général d'histoire de la philosophie. À la même occasion, Eugenio Garin avait été bien plus radical et avait invité les chercheurs à se libérer du fantasme de l'averroïsme. Et c'est justement un spectre en voie de disparition qu'évoquera 10 ans plus tard Rudi Imbach lors du colloque romain Gli studi di filosofia medievale fra 8 e 900, les études de philosophie médiévale entre 19e et 20e siècle, dans sa communication consacrée justement à l'averroïsme latin du XIIIe siècle. Je cite: La multiplication des sources et une lecture plus exacte des textes ont eu pour conséquence la mort lente du spectre engendré par Ernest Renan. Un quart de siècle plus tard, toutefois, ce spectre continue à rôder parmi les historiens de la philosophie médiévale. En témoignent les conférences collectives et les colloques qui lui ont été consacrés. Mais il y a plus encore. Ces dernières années, des chercheurs de formations différentes semblent vouloir lui redonner la vie. Je ferai seulement 2 exemples. Le premier est le cas d'Emanuele Coccia, qui, dans son article Intellectus sive intelligentia, Alberto Magno, Averroè et la noétique degli Arabi, publié dans la Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Théologie en 2010, formule un jugement très critique sur une recherche érudite qui, à son avis, vient d'aboutir à la dissolution de son propre objet. Je cite, traduit en français, lui écrit en italien: Dans un étrange exercice de révisionnisme, nous sommes allés jusqu'à douter de l'existence même d'un courant que l'on peut appeler averroïsme, transformant ainsi l'image de l'un des embarras politiques et théoriques les plus profonds de la philosophie médiévale en un faux historique retentissant. Il en va de même pour l'intervention de John Barenboim dans 2 articles. Le premier, Dante's Averroïsme, a été publié en 2001 dans l'ouvrage Poetry and Philosophy in the Middle Ages. Le second, postérieur, est publié lui aussi dans un ouvrage collectif, Islamic Cross-Pollination, reprend largement les premiers articles, mais son titre, Latin Averroism, cherche clairement à souligner la portée générale de son discours. Barenboim attaque la tradition historiographique qui va de Pierre Mandonnet à Ferdinand Vastenbergen jusqu'à René-Antoine Gautier, en refusant l'abandon de la catégorie historiographique d'averroïsme en faveur de celle de l'aristotélisme radical. Et voici sa conclusion. I shall be arguing, by contrast, that there is an understanding of Latin averroism by which it did indeed begin with Caesar and Boethius and continued through to the 16th century and which is close to what medieval scholars themselves had in mind when they talked of averriste, or in certain contexts, appealed to, or distanced themselves from, the commentator. Comment peut-on donc utiliser de nouveau correctement l'étiquette d'averroïsme? Je cite encore Barenboim. I suggest that the usual way to use the label Latin averroist, one which has the virtue of, by and large, picking out the writers who in the Middle Ages were called averroists or described as averroist followers, usually by their critics, is to apply it to those writers who, A, accepted Averroes' view that there is only a single potential intellect, B, concentrated their efforts on reaching and examining an accurate account of Aristotle's ideas, usually based on that presented by Averroes, even where this position are incompatible with Christian teaching, in particular the position that a world has no beginning, and C, adopted some sort of strategy to explain why they, though Christian, did A and B. Mais avant à ce retour polémique à une définition forte d'averroïsme, il y a eu pourtant bon nombre de tentatives pour ne pas abandonner complètement cette catégorie historiographique, mais plutôt pour revoir son champ d'application. Quelques exemples, vers la fin du siècle dernier, Alain de Libera et Carlos Tell ont cherché à identifier l'élément distinctif de l'averroïsme, non plus seulement dans la doctrine de l'unité de l'intellect possible, mais davantage dans la manière avec laquelle on a envisagé les rapports entre l'homme et le monde des intelligences séparées. Dans ce modèle interprétatif, la confiance de pouvoir s'élever jusqu'à ce monde à travers l'activité spéculative propre aux philosophes, la fameuse fiducia philosophantium, et d'atteindre ainsi un bonheur total et une pleine humanité, identifier un groupe de maîtres parisiens en les distinguant ainsi des autres intellectuels médiévaux. Pour sa part, dans son article intitulé Averroica Secta, Note on the Formation of Averroist Movement 14th Century Bologna and Renaissance Italy, publié dans 2007, Nicolas Hasse soutient que l'on peut parler d'averroïste et d'averroïsme, tout comme on peut probablement parler de tout autre mouvement philosophique, lorsqu'on identifie un groupe de philosophes, voire des professeurs de philosophie, chronologiquement et géographiquement assez resserrés, dont les membres sont souvent liés par des rapports reconnus des maîtres et des disciples, et partageant des doctrines de base, dans notre cas, l'unité de l'intellect possible, une façon de faire de la philosophie qui prend Averroès pour point de repère principal. Par conséquent, les maîtres bolognais de la première moitié du XIVe siècle, c'est-à-dire Gentile da Cingoli, Antonio da Parma, Taddeo da Parma, Angelo d'Arezzo, Matteo da Gubbio e d'autres, dont certains sont des contemporains de Dante, peuvent être qualifiés d'averroïstes, bien que personne ne les ait définis comme tels à l'époque. En opposition avec Hasse, Dragos Calma, quant à lui, a élargi le champ d'application du terme dans son livre « Études sur les premiers siècles de l'averroïsme latin » du 2011, et même avant dans son compte rendu des actes des colloques averroès et d'averroïsme juif et latin, compte rendu publié dans la Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie en 2010. En se basant sur le fait que du XIIIe au XVe siècle, les termes d'averroïsme aient été utilisés pour désigner des doctrines et des personnes relativement différentes, il en souligne la polysémie. En découle donc la nécessité de parler d'averroïsme au pluriel, on avait déjà senti cette chose, plutôt que d'averroïsme au singulier. Toutefois, je pense, avec le risque de passer de la polysémie à la pure ambiguïté. Enfin, tout récemment, Luca Bianchi a constaté une irrémédiable imprécision qui continue à rendre difficilement utilisable la catégorie d'averroïsme, et il a ainsi proposé de la remplacer par celle des traditions averroïstes, qu'il considère capable d'éviter à la fois des exclusions retentissantes et des élargissements abusifs. Maintenant, nous pouvons alors nous demander quand et comment la figure de Dante est entrée dans le champ d'une catégorie historiographique si flottante et sujette à des révisions perpétuelles. Ce rapport ne commence pas en Italie, mais ce sont des rapports qui ont quelque chose à voir avec l'Italie. L'état d'union entre Dante et l'averroïsme a été sûrement la présence de Sigis de Brabant dans le 10e chant du paradis. Et l'étude fondamentale de Pierre Mandonnet publié d'abord à Fribourg et puis sous une forme enrichie à Louvain, avait identifié les maîtres de Brabant comme un véritable représentant de cet averroïsme étudié par Renan, mais resté sans fondement réel tout au long du XIIIe siècle. Naissait alors un problème. Pourquoi Dante a-t-il placé parmi les esprits bénis des savants un personnage à l'orthodoxie douteuse, et pourquoi son éloge est-il prononcé justement par son adversaire Thomas d'Aquin? Il s'agit là d'un problème qui continue aujourd'hui encore à faire l'objet de nombreuses études, sans que l'on ait encore donné une solution acceptée de tous. Au moment de la seconde édition du travail de Mandonné, Bruno Nardi travaillait à Louvain à une thèse dont le titre est déjà significatif en lui-même, Sigeri di Brabante e le fonti della filosofia di Dante. Nardi considérait Dante non seulement comme un poète, mais même comme un philosophe, et aussi comme un philosophe. Et pour le comprendre comme tel, il fallait, à son avis, connaître les panoramas des mouvements philosophiques avec lesquels Dante avait été en contact et des pas tout ramenés aux doctrines de Thomas d'Aquin. Et c'est justement en ouvrant les horizons que Nardi avait trouvé des points où, selon lui, Dante soutenait des positions très proches de celles de Siget et très éloignées de celles de l'Aquinate, se rapprochant ainsi de l'averroïsme. Tout au long de son activité de chercheur et au fur et à mesure que ses connaissances de la pensée médiévale s'amplifiaient, Nardi a toujours répété et redéfini cette conviction. L'averroïsme de Dante est un chapitre particulier de son adhésion à une série de thèses différentes de celles de Thomas d'Aquin, souvent à la limite de l'hétérodoxie et réellement frappée par les condamnations ecclésiastiques. En 1960, pratiquement au terme de sa carrière, Nardi dressait une liste de ses doctrines. Création médiate de la matière première, mise en évidence de la séparation de l'entellect qui s'unit à la substance humaine du dehors, identification de l'être et de la pensée dans les substances séparées, idée d'une mise en œuvre de l'entellect possible de la part de l'humanité dans son ensemble. L'ouvrage est dal Convivio alla Commedia. On continue aujourd'hui encore à discuter de l'ampleur exacte de certaines de ces positions identifiées par Nardi. À mon avis, parler d'un averroïsme dantesque en l'identifiant aux thèses philosophiques précises d'un auteur précis peut toutefois s'avérer trompeur. Dans les livres consacrés par Étienne Gilson à Dante et la philosophie, on trouve justement des observations de méthode à ces propos qui n'ont peut-être pas été considérées avec l'attention qu'elles méritaient et méritent encore. Je cite. Il faut toujours avoir soin d'interpréter les blocs doctrinaux qu'il, Dante, utilise, non selon ce qu'ils contiennent ou ce qu'ils s'impliquent dans les philosophies dont Dante les emprunte, mais selon la justification qu'il apporte à la thèse personnelle que Dante veut soutenir. En d'autres termes, si l'on veut comprendre Dante dans les Convivio, il ne faut pas s'installer successivement dans chacune des positions qu'il traverse, ni creuser chacune d'elles en profondeur, ou rayonner de chacune d'elles en toutes les directions que prise nelle même les suggère. Il faut les traverser avec lui, du même mouvement dont il les traverse, comme des étapes où l'on peut s'attarder un instant pour jouir du paysage, mais dont aucune n'est le but. En effet, si nous restituons les affirmations averroïstes, entre guillemets, de Dante dans l'ensemble de son discours, nous nous rendons souvent compte qu'elles ont une valeur non pas en soi, ma par rapport a ce qui intéresse réellement Dante, ce qui le place dans un contexte bien différent de celui dans lequel elles ont été formulées. Prenons-en pour preuve la célèbre controverse Nardi-Busnelli sur l'origine de l'âme humaine, qui a fait courir fleuve et mer d'encre. Les processus à travers lesquels le sang menstruel de la femme est structuré par la capacité de la semence de l'homme à agir téléologiquement faisaient déjà l'objet de descriptions articulées et complexes de la part des médecins, des philosophes et des théologiens. Dante l'a simplifié et résumé en quelques lignes qui, dans ces cas précis, sont vraiment inspirées par un souci de vulgarisation. L'affirmation finale selon laquelle l'âme entendue comme principe de vie produite par l'action conjointe de la semence des cieux reçoit en vertu du moteur du ciel l'intellect possible n'a, selon moi, absolument rien de technique et peut difficilement souffrir une interprétation générale en lien avec les thomismes ou l'albertisme de Dante. De la même manière, lorsque nous lisons que l'intellect possible contient en lui-même toutes les formes universelles présentes en Dieu qui les produit et que ces formes sont aussi peu universelles que cet intellect s'éloigne de la première intelligence, nous entendons très clairement l'écho du langage d'Albert dans les « d'intellect et intelligibili ». Mais Dante applique ces principes de gradualité non pas à l'échelle des intelligences qui émanent du premier, mais plutôt aux intellects possibles des individus. Cela lui permet, en effet, de revenir au problème qui l'intéresse réellement et qui n'était pas le problème d'Albert, à savoir celui de la noblesse et, dans ce cas-là, de la base physiologique de cette origine de la vertu. À la fin du XXe siècle, le thème de l'avéroïsme de Dante a suivi pourtant neuf et différentes voies, à partir encore une fois de l'Italie. En 1981, pour moi les nombres français sont vraiment un problème, pardonnez, Maria Corti publiait un petit livre Dante a un nuovo crocevia qui reliait Dante e sa filosofia all'univers de l'avéroïsme bolognais du début du XIVe siècle. C'était un courant de pensée déjà étudié par Nardi, surtout par Anneliese Maier et par Charles Hermatinger. Selon Maria Corti, les avéroïstes bolognais avaient fait figure d'intermédiaire grâce auquel Dante avait connu et assimilé certaines des théories philosophiques les plus récentes élaborées à Paris. Le thème central de ces travaux, de ces premiers travaux de Maria Corti, nous l'avons vu oui, par la relation de Madame Rosier, concernait l'usage de la grammaire spéculative des modistes dans les divulgare eloquentia, un thème qui, enfin, avéroïstiquement, est plutôt neutre. Mais des années après, dans son ouvrage La félicité mentale et nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, Maria Corti reprenait les thèmes déjà traités par Nardi de l'avéroïsme du premier ami de Dante, l'aristocraticisme, on si dit, de Guido Cavalcanti, était lié à l'exaltation de la vie philosophique caractéristique de certains maîtres parisiens, dont notamment Boès de Dacy. Dante lui-même aurait été conquis par cet idéal qu'il aurait ouvertement soutenu dans les trois premiers traités du convivio. En réalité, ses livres étaient en grande partie consacrés à une enquête intertextuelle qui faisait interagir les convivio avec les écrits d'Albert le Grand, avec la Summa Alexandrinorum, avec les opuscules de Boès de Dacy. À ce niveau, les affirmations de Maria Corti n'ont pas tenu face aux analyses successives, plus approfondies et moins enthousiastes. Mais l'idée que dans les convivio Dante est proposé en tant que laïque et pour un public non universitaire, les modèles de vie philosophique autonome propres au groupe des magistri artium parisiens, une vie en quoi réside la véritable réalisation de l'homme de son bonheur, a eu un réel succès. L'expression « félicité mentale »,« félicité intellectuelle » a eu elle aussi une fortune extraordinaire, si bien qu'elle est couramment utilisée aussi bien par les spécialistes Dante au sens strict que par les historiens de la philosophie médiévale. Parmi ces derniers, l'intérêt pour Dante a connu une croissance exponentielle. dans les dernières années. Les recherches visant à mieux préciser les rapports entre l'intellectuel florentin et le monde de la culture universitaire de l'époque se sont ainsi multipliées. Ce monde continuait lui aussi de se révéler de plus en plus complexe, précisément en ce qui concerne les sujets que Dante abordait. Un travail d'extinction, de précision, de correction a alors commencé et se poursuit aujourd'hui encore avec des résultats considérables. Néanmoins, si nous voulons élargir les débats, il semble, encore une fois, que la philologie soit en train de détruire l'objet même sur lequel elle se penche. Conclusion inévitable ? Je ne le crois pas. Permettez-moi donc de revenir en Italie et de faire un bond en arrière d'un siècle environ. Au début du XXe siècle, un intellectuel qui eut un rôle important dans la vie culturelle et politique même italienne, Giovanni Gentile, rédigé les premiers chapitres d'une storia della filosofia italiana. Nous sommes dans les années 10 du XXe siècle. Après avoir entamé aux côtés de Benedetto Croce une bataille philosophique contre l'école philosophique alors dominante en Italie, le positivisme, Gentile était entré en conflit avec un autre courant de pensée plus récent, la néo-scolastique. À la différence de Croce, Gentile prêtait attention aux racines historiques de son adversaire. L'histoire de la philosophie italienne commence donc par le Moyen-Âge et Gentile analyse largement la pensée de Thomas et de Bonaventure. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que le premier chapitre est consacré justement à l'averroïsme. En réalité, quoique Gentile suivait attentivement ce qui passait à Louvain, ce sont des discussions avec Maurice de Wulf, remontent à 1905, comme si dice 1911, il semble qu'il n'ait pas lu, Gentile, au moment de la rédaction de son texte, le travail de Mandonnet. Parce que du point de vue informatif, le chapitre dépend presque totalement de Renan. Le seul nom d'averroïste est celui de Frédéric D. Sigée de Brabant n'était même pas nommé. Mais l'interprétation de Gentile, de la doctrine d'Averroé, est intéressante. La doctrine d'Averroé relative à la séparation de l'intellect possible n'était plus considérée comme un égarement de l'esprit humain. Au contraire, elle, pour Gentile, exprimait une idée fondamentale, la séparation de la pensée pure de la psychologie contingente de l'individu. Un précurseur de beaucoup de choses que nous avons entendues aujourd'hui. Je cite, traduction française, « Une vérité n'est née pas quand nous, hommes, nous la pensons, et si elle n'est autre chose qu'une détermination de l'esprit, comment donc ne pas penser à un esprit libre des vicissitudes naturelles de la vie individuelle, à un esprit impersonnel, éternel, déterminé dans toutes les vérités possibles ? Et cela expliquait, selon Gentile, pourquoi l'averroïsme fut l'une des philosophies les plus craintes, les plus abhorrées, les plus combattues, mais aussi les plus diffusées, les plus suivies, les plus séduisantes qu'il y ait eu dans l'histoire de la pensée. Parallèlement à cette caractérisation générale, Gentile en présentait une autre, certainement plus intéressante pour nous. Je cite à nouveau. L'averroïsme fut la philosophie des rebelles, la philosophie des libres penseurs, de l'aufklärung, ou tout au moins de ceux qui n'arrivaient pas à penser ce qu'ils s'efforçaient de croire, dilacérant ainsi leur unique pensée et une douloureuse duplicité de la foi et de la raison à laquelle ils crurent devoir et pouvoir s'arrêter. En tout cas, il fut la philosophie d'une Aufklärung médiévale. Nardi, qui, suivi dans son présupposition, suis beaucoup gentil, en tirera la conviction que la séparation entre raison et foi, comprise comme un contraste insurmontable, comme le refus de tout concordisme, les fameuses phrases « unum scio aliud credo », constitue la caractéristique générale de l'avéroïsme, indépendamment de la variété des doctrines de chaque penseur. À l'instar de Gentile, Nardi critiquera cette dichotomie au nom d'une vérité de l'esprit, l'esprit de l'idéalisme italien, qui n'admet pas la distinction artificielle, et une vérité que l'homme façonne en unifiant son expérience et une vision de la vie et du monde qui ne peut justement pas être dilacérée. La distinction médiévale entre philosophie et théologie, soulignée par l'avéroïsme de façon extrême, est pour lui le simple constat de l'incompatibilité entre la pensée d'Aristote et la nouvelle intuition de la vie et du monde fondée sur l'Évangile. Simplement un fait. Nardi utilise ici sciemment la terminologie philosophique de Gentile, un fait qui ne se transforme pas en acte, c'est-à-dire en élaboration intellectuelle et spirituelle. Ainsi, les jugements de Nardi sur la valeur et la signification des avéroïstes finissent-ils, par des raisons tout différentes, par coïncider avec celui de Gilson, exégète de plus en plus fatigué de la philosophie péripatétique, ils restèrent totalement stériles du point de vue philosophique. Eh bien, Nardi, à la fin de sa vie, s'occupait des avéroïstes du XVIe siècle, de noms imprononçables, Tagliapietra, ce sont vraiment stériles. Mais dans ces jugements négatifs touchèrent à Dante au moins une fois. Je cite l'article de Nardi, Très prétese fasi del pensiero politico di Dante. Comme la thèse, je suis en train de finir, comme la thèse avéroïste de la double vérité, l'affirmation dantesque dell'autonomie de la fin naturelle et de la raison face à la fin surnaturelle et à la foi constitue en elle-même une absurde logique qui n'est plus et ne pourra jamais être réalisée dans l'histoire de la pensée humaine. La conscience humaine ne supporte pas les dédoublements ou les dualismes irréductibles. La vérité ne peut être qu'une seule égale à elle-même. Mais dans d'autres publications, ce jugement devient bien moins négatif. On ne parle plus des séparations, mais des revendications d'autonomie de la pensée rationnelle. Je cite les comptes rendus par Nardi de l'ouvrage de Gilson, Dante et la philosophie, publié dans Studi Danteschi. Je cite, « En séparant les domaines de la philosophie et celui de la théologie, l'avéroïsme latin affirmait en premier lieu l'autonomie, c'est-à-dire la non-subordination de la raison humaine à la révélation. Il me paraît dès lors que cette autarchie et l'indépendance de la raison par rapport à la foi, de la philosophie par rapport à la théologie, même sans s'opposer l'une à l'autre, constituent une thèse avéroïste. L'idée que la philosophie humaine, en d'autres termes la philosophie aristotélicienne, suffisent à satisfaire les désirs naturels de l'homme, représente pour moi une doctrine étroitement avéroïste et certainement antitomiste. » Voilà, veniamo à Dante. Ainsi, l'inspiration foncière de la monarchie dérive pour Nardi de l'acceptation de cette doctrine avéroïste. Je cite, « La séparation entre la fin naturelle et la fin surnaturelle est la conséquence logique d'avoir reconnu avec les avéroïstes l'existence d'une fin propre à l'humanité en tant que telle qui consiste en la réalisation de toute la puissance de l'intellect possible. » Nardi soutient donc qu'il existe chez Dante une forme particulière d'avéroïsme, un avéroïsme décliné politiquement. Je cite à nouveau le concept de l'impero. Dante, ce sont les dernières pages, Dante revendiquait implicitement l'autonomie de la raison et de la philosophie face à la foi et à la théologie. Et il parvenait alors, à travers une affirmation très hardie, à une espèce d'avéroïsme politique qui sera le point de départ, quelques années plus tard, des doctrines politiques de Marcis de Padoue. Dans son ouvrage « Dante, la philosophie et les laïcs », un texte très important et qui a d'ailleurs ouvert la voie à un nouveau champ de recherche, celui de la philosophie en langue vulgaire au Moyen-Âge, Rudi Imbach parle lui aussi d'une déclinaison politique de l'intellect par Dante. Par un mouvement de pensée extrêmement original, Dante aurait mis en lien deux éléments fondamentaux de l'anthropologie aristotélicienne qu'Aristote lui-même avait maintenu séparés, l'homme animal rationale et l'homme animal politicum. Cependant, Imbach ne fait aucune référence à Averroès. Comme nous l'avons déjà dit, c'est plutôt Jean Barenboim qui a reproposé l'idée d'un Dante pleinement averroïste en ce qui concerne la monarchie. Les objections à cette position ont été nombreuses et souvent bien fondées. Par exemple, une chronologie postérieure des monarchies par rapport à la comédie est aujourd'hui bien difficile, selon moi, à défendre. En outre, Jean-Baptiste Brenier a souligné avec une grande justesse la différence profonde entre Dante et Averroè au sujet de la réalisation complète de l'intellect possible. Il reste toutefois un fait indéniable. Lier l'intellect possible et l'humanité dans son ensemble, une théorie qui distingue Dante de tous les auteurs politiques de l'époque, nous renvoie inévitablement à Averroè. Et peu importe que l'Averroè de Dante ne soit pas réellement identique au véritable Ibn Rushd. Mais il y a plus encore. Cette humanité qui pourra arriver à sa propre fin en une collaboration pacifique sous la direction à la fois de l'empereur et des philosophica documenta est composée aussi des nations qui ne reconnaissent ni l'acceptent la juridiction papale. En effet, dans la monarchie, pour prouver que les pouvoirs présumés du pape in temporalibus ne dérivent pas d'un consensus universel des peuples, Dante avance l'exemple des Africains et des Asiens, qui, ça va sans dire, ne sont pas chrétiens. Il s'agit d'une brève allusion qui ne sera pas développée, mais qui implique, à mon avis, quelque chose que je qualifierais de révolutionnaire, cioè l'humana civilitas et la christianitas, ne coïncide plus nécessairement. Il n'y a certainement rien de tout cela chez Averroè. Mais de la même manière, il y a sans doute quelque chose d'Averroè derrière tout cela. Tout comme il y a quelque chose d'Averroè dans l'insistance de Dante sur la simplicité et sur l'identité de l'être avec la pensée qui caractérise les substances séparées, même si ces dernières sont aussi pour Dante des anges qui caractérisent sont des anges dotés de propriétés bien différentes de celles des intelligences des péripatéticiens. Nous pourrions alors conclure, j'ose le dire, en reprenant à notre compte une expression utilisée dans un autre contexte par Wittgenstein. Je vis que Jean Marimbon l'utilise lui aussi dans son livre. Et affirmer que Dante n'est pas averroïste au sens strict du terme, pourvu qu'il y ait un sens strict, mais que dans certains cas, nous percevons entre lui et Averroè une sorte d'air de famille. Il serait intéressant de voir si cette catégorie peut être appliquée également à d'autres auteurs et à d'autres courants écoles philosophiques du XIVe et XVe siècle. Et je finis peut-être l'impossibilité de définir avec une précision analytique ce que c'est l'averroïsme n'amène-t-elle pas nécessairement à devoir l'exorciser tel un fantôme éliminé. Grazie.